Nous vous souhaitons la bienvenue à cette réunion générale de la Société de secours de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Je suis Sœur Julie B. Beck, présidente générale de la Société de secours. Je suis accompagnée ce soir de mes conseillères, Sœur Sylvia H. Allred et Sœur Barbara Thompson. Cette réunion est diffusée en 78 langues à des femmes vivant dans 175 pays et territoires. En tant que présidence de la Société de secours, au cours de l'année écoulée, nous avons rencontré personnellement des sœurs de la Société de secours en Amérique centrale, en Amérique du Sud, aux États-Unis et dans les îles d'Océanie. Nous sommes contentes et honorées que Thomas Monson, Henry B. Eyring, éditeur F. Urdorf de la première présidence, soient avec nous ce soir. Russell M. Nelson et Neil L. Anderson des 12 apôtres, Bruce C. Huffen, des 70, qui est l'un de nos consultants, sont également ici ce soir. De même que les présidents généraux des jeunes filles de la primaire et les membres du bureau général de la Société de secours. La musique de cette réunion sera interprétée par un chœur composé de sœurs de la Société de secours, des pieux de West Point, Clearfield, Clinton, Sunset et Syracuse en Utah, dirigé par Cathy Jolly et accompagné à l'orgue par Bonnie Goodleaf. Le chœur et l'assemblée vont maintenant chanter ensemble notre cantique d'ouverture, ce jour au cœur j'ai du soleil. Puis, Martha Johnson, du bureau général de la Société de secours, fera la prière d'ouverture.
Yeah. Our beloved Father in heaven,
notre cher Père céleste, nous sommes reconnaissantes d'être réunies ici en tant que filles dans le monde entier. Nous sommes reconnaissantes d'être réunies ici avec notre prophète, ton prophète, cet homme que tu nous as donné pour nous guider dans ces derniers jours. Nous sommes tellement reconnaissantes de la prêtrise que tu nous as donnée par l'intermédiaire de ces hommes et qui s'en occupent, qui la détiennent si bien et qui l'exercent pour nous. Nous te remercions, Père, de nous montrer la manière de pouvoir retourner auprès de toi. Ensemble, nous prions humblement. Te demandons de nous aider à recevoir tes recommandations ce soir. Aide-nous à ouvrir notre cœur. Aide-nous à prendre la décision de faire ces choses que nous voyons à faire dans notre vie et qui permettront aux cieux de venir sur terre. Aide-nous à nous rapprocher de toi. Aide-nous à préparer ce monde pour qu'il puisse recevoir la lumière et la connaissance que tu as prévue pour nous. Nous sommes reconnaissantes d'être tes filles. Nous sommes reconnaissantes d'être réunies. Nous te donnons notre cœur. Nous voulons faire ta volonté. Nous te remercions pour la liberté qui nous permet de faire toutes ces choses. Et nous te prions pour que cette liberté puisse être préservée partout dans le monde, que nous puissions être capables de choisir, de faire des alliances et de choisir de les respecter, choisir de pouvoir aider les autres et les amener à toi. Nous te remercions, Père, pour le déversement de ton esprit ce soir. Nous te prions, Père, pour que notre cœur puisse être rempli, que nous puissions être émus et que nous ayons le désir de vivre plus comme tu l'attends de nous. Te demandons de bénir ceux qui vont prier, dire ces choses.
Nous te prions, Père, pour que
nous puissions recevoir ton message, le cœur humble. Nous t'offrons cette prière et nous te remercions de tout ce que nous avons. Et nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Amen.
Thank you, Sister Johnson.
Merci, Sœur Johnson. Le président Monson m'a demandé d'être la première oratrice ce soir. Après mon discours, le chœur chantera « Nous, sœurs en Sion ». Ensuite, Sœur Sylvia H. Allred, première conseillère dans la présidence générale de la Société de secours, nous adressera la parole. Elle sera suivie par Sœur Barbara Thompson, deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de secours. Après le discours de Sœur Thompson, le chœur et l'assemblée chanteront « Quel fondement ferme ». Quel beau rassemblement de femmes de la Société de secours. Depuis notre dernière réunion générale, j'ai eu la bénédiction de rencontrer beaucoup d'entre vous. Merci pour votre vie fidèle et votre service dévoué. Lors de récentes réunions générales de la Société de secours, on nous a enseigné à quel point les saintes des derniers jours sont fortes et inébranlables dans la connaissance et l'accomplissement de l'objectif de la Société de secours. Ce soir, j'espère faire grandir notre témoignage et notre compréhension que la Société de secours est une œuvre basée sur la foi. Je vais parler de l'objectif de cette œuvre et de la manière dont nous devons l'accomplir. Nous savons que l'objectif de la Société de secours, telle qu'elle a été établie par le Seigneur, est de préparer les femmes aux bénédictions de la vie éternelle, en les aidant à augmenter leur foi et leur justice personnelle, fortifier leur famille et leur foyer, servir le Seigneur et ses enfants. Nulle autre organisation de femmes n'a l'histoire, l'objectif et l'œuvre de la Société de secours. En 1942, la première présidence de l'Église a déclaré « Sur toute la terre, aucune autre organisation de femmes n'a débuté ainsi. Les membres de la Société de secours ne doivent pas permettre à des intérêts hostiles ou compétitifs, de quelque nature qu'ils soient, de les détourner de leurs devoirs, obligations, privilèges, honneurs, possibilités et accomplissements dans cette grande société. Si notre appartenance à la société de secours est si importante, nous devons savoir ce qui nous rend différentes de tous les autres groupes ou organisations de femmes. Tout ce que nous faisons à la société de secours a de l'importance parce que notre Père Céleste et son Fils Jésus-Christ sont apparus à Joseph Smith et ont rétabli par son intermédiaire la plénitude de l'Évangile de Jésus-Christ sur la terre. La société de secours fait partie de ce rétablissement. Joseph Smith, le prophète, a défini l'objet de la société de secours et a enseigné leurs objectifs aux sœurs, tout comme il a enseigné aux dirigeants de la prêtrise de Kirtland et de Nauvoo ce qu'étaient leurs objectifs et leur œuvre. Notre organisation continue d'être dirigée par des prophètes, des voyants et des révélateurs. La société de secours est unique car elle a été organisée selon le modèle de la prêtrise et nous fonctionnons au niveau général et local sous la direction de dirigeants de la prêtrise. Nous travaillons en partenariat avec des dirigeants de la prêtrise. Ils détiennent les clés qui leur donnent l'autorité de présider au nom du Seigneur. Nous fonctionnons à la manière de la prêtrise, c'est-à-dire que nous cherchons, recevons et suivons la révélation. Nous prenons des décisions en conseil et nous nous efforçons de prendre soin de chacun individuellement. Tout comme la prêtrise, notre objectif est de nous préparer aux bénédictions de la vie éternelle en faisant et en respectant des alliances. Par conséquent, comme pour nos frères qui détiennent la prêtrise, notre but consiste à apporter le salut, à rendre service et à devenir un peuple saint. Boyke Packer a enseigné « Les responsabilités de la société de secours sont très vastes. L'assistance à la réunion du dimanche n'est qu'une petite partie de votre devoir. Certaines d'entre vous n'ont pas compris cela et ont délaissé une grande partie de ce que la société de secours a représenté au fil des ans. La solidarité entre sœurs et ses aspects charitables et pratiques. » Il a expliqué « Le prophète Joseph nous a dit que la société de secours est organisée selon le modèle de la prêtrise. Lorsqu'un homme détient la prêtrise, il doit lui être totalement dévoué et loyal. L'appartenance à la prêtrise magnifie l'homme et le garçon. Où qu'il soit, quoi qu'il fasse, quelles que soient les personnes qu'il côtoie, il est attendu de lui qu'il honore sa prêtrise. Sœur, si vous suivez ce modèle, vous servirez votre organisation, votre cause, la société de secours. Le service dans la société de secours magnifie et sanctifie chaque sœur. Vous ne devriez jamais perdre de vue votre appartenance à la société de secours. » Notre objectif clairement exposé, il s'ensuit naturellement qu'il y a une bonne façon de remplir nos responsabilités. Voyons maintenant brièvement comment est organisée l'œuvre de foi de la société de secours. Le temps est l'un des biens les plus précieux que nous ayons tous. La plupart des femmes ont de nombreuses responsabilités et jamais assez de temps pour faire tout ce que leur cœur et leur esprit voudraient. Nous témoignons du respect au Seigneur et aux sœurs lorsque nous utilisons le temps de la société de secours de manière inspirée. Dieter F. Urdorf a enseigné « Un jour, un homme sage a fait la différence entre l'art noble de faire ce qu'il y a à faire et l'art noble, encore plus noble, de laisser les choses en l'état. » Il a enseigné que la véritable sagesse consiste à éliminer l'accessoire. Le président Urdorf a ensuite demandé « Quelles sont les choses accessoires qui encombrent vos journées et vous privent de votre temps? Quelles habitudes avez-vous prises qui ne servent pas à un objectif utile? Quelles sont les choses non terminées ou non commencées qui apporteraient force, sens et joie à votre vie? Nous pouvons appliquer ces questions à toutes les réunions et activités de la société de secours. » Nous tenons la réunion hebdomadaire de notre organisation le dimanche, lors des 3 heures de réunion habituelles. Il est impressionnant de penser que chaque dimanche, dans le monde entier, des milliers de groupes de sœurs se rassemblent pour faire grandir leur foi, fortifier leur famille et coordonner leurs efforts pour apporter du soulagement aux autres. Nos réunions dominicales ne durent que 50 minutes. Nous commençons donc en nous occupant des affaires importantes qui nous aideront à être plus unis et plus efficaces dans notre œuvre. Nous traitons nos affaires d'une manière brève, digne, organisée et conforme à qui nous sommes et à ce que nous devons faire. Les sœurs qui assistaient aux premières réunions de la société de secours recevaient des enseignements de la part de prophètes et d'apôtres. De même, nous étudions les paroles des dirigeants de l'Église actuelle. Quelle bénédiction d'avoir une documentation qui enseigne la doctrine et les principes qui nous aident à appliquer l'Évangile dans notre vie personnelle et au foyer. La société de secours étant une œuvre basée sur la foi, les leçons sont plus efficaces lorsque l'enseignement est inspiré et que celle qui prêche et celle qui reçoit se comprennent et que toutes deux sont édifiées et se réjouissent ensemble. Toutes nos réunions et activités sont des réunions des sœurs de la société de secours. Depuis un certain nombre d'années, nous appelions les réunions supplémentaires de la société de secours les réunions d'édification du foyer, de la famille et de la personne. Du fait de la complexité de ce titre et de différentes interprétations concernant l'objectif de ces réunions, nous avons pris la décision d'arrêter d'appeler ces réunions édification du foyer, de la famille et de la personne. En conseil avec la première présidence et le collège des douze apôtres, il a été décidé de désigner simplement toutes les réunions et activités de la société de secours par le nom réunion supplémentaire de la société de secours. Les réunions de la société de secours qui ne se tiennent pas le dimanche seront appelées selon leur nature activités de service, leçons, projets, conférences ou ateliers de la société de secours. Ces réunions supplémentaires peuvent être des compléments précieux à l'enseignement du dimanche, particulièrement pour les sœurs qui servent à la primaire et aux jeunes filles ou qui ne peuvent pas assister aux réunions du dimanche. Ce sont aussi de bonnes occasions d'amener nos amis non membres et de faire participer les sœurs de la société de secours qui ne viennent pas trop à l'église. Cependant, les sœurs ne doivent pas avoir le sentiment que l'assistance à ces réunions est obligatoire. Sous la direction de l'évêque, la présidence de la société de secours de paroisse peut utiliser ces réunions pour répondre à des besoins spirituels et temporels de personnes et de familles de la paroisse et pour renforcer la solidarité et l'unité. Dans ces réunions, les sœurs apprennent et accomplissent les responsabilités charitables et pratiques de la société de secours. Elles apprennent et mettent en pratique des compétences qui les aideront à faire grandir leur foi et leur justice personnelle, à fortifier la famille et le foyer et à aider les personnes dans le besoin. Ces réunions sont destinées à aider à enseigner les compétences et les responsabilités des femmes et des mères dans le plan du Seigneur. Les femmes apprennent et appliquent les principes de la prévoyance et de l'autonomie spirituelle et temporelle. Leur solidarité et leur unité augmentent également lorsqu'elles s'instruisent mutuellement et servent ensemble. La présidente de la société de secours de paroisse supervise toutes les réunions de la société de secours. Dans le cadre de cette responsabilité, elle s'entretient régulièrement avec l'évêque de la manière dont ces réunions peuvent répondre aux besoins des personnes et des familles de la paroisse. À l'aide de la prière, la présidence de la société de secours réfléchit à la fréquence à laquelle les réunions supplémentaires de la société de secours auront lieu et à l'endroit où elles se tiendront. Elle fait une recommandation à l'évêque en tenant compte des disponibilités des sœurs, de leur situation familiale, de la distance et des frais de transport, du coût pour la paroisse, de la sécurité et d'autres circonstances locales. Les réunions supplémentaires de la société de secours se tiennent généralement à un autre moment que le dimanche ou le lundi soir. Elle se tient généralement tous les mois, mais la présidence de la société de secours peut recommander de le tenir plus souvent ou moins. Des efforts doivent être faits pour se réunir au moins une fois par trimestre. Au moins une sœur de la présidence de la société de secours doit assister à chaque réunion. Les dirigeantes de la société de secours prient et réfléchissent ensemble à propos des sujets qui fortifieront les sœurs et les familles et la manière de les enseigner au mieux. La présidente de la société de secours s'assure que ces projets ont l'approbation de l'évêque. Elle veille également à ce qu'ils soient conformes aux règles actuelles concernant les activités, y compris pour ce qui est des finances. Elle supervise ces réunions, mais elle peut demander à une conseillère ou à une autre sœur de la paroisse de se charger de leur planification, de leur coordination et de leur réalisation. Un sujet peut être traité dans une seule réunion ou être abordé en plusieurs leçons ou activités. Généralement, les instructrices doivent être des membres de la paroisse ou du pieu. Chaque année, une réunion ou activité peut commémorer la fondation de la société de secours et porter sur son histoire et ses objectifs. En planifiant les réunions supplémentaires de la société de secours, les dirigeantes donnent la priorité à des sujets qui permettent d'atteindre ces objectifs, comme le mariage et la famille, les arts ménagers, la prévoyance et l'autonomie, le service compatissant, le temple et l'histoire familiale, l'œuvre missionnaire et d'autres sujets indiqués par l'évêque. Lors de notre planification, nous demandons au Seigneur ce que nous avons besoin d'apprendre et de devenir pour nous préparer à la vie éternelle. Dans la sagesse du Seigneur, chaque paroisse a ses propres caractéristiques qu'aucune autre paroisse ne possède. On peut comparer cela à l'ADN qui fait que chaque être humain est unique. Chaque évêque a la responsabilité de sa paroisse en particulier. Chaque présidente de la société de secours de paroisse est appelée à aider un évêque. Chaque évêque et chaque présidente de la société de secours ont reçu l'imposition des mains pour avoir l'inspiration concernant leurs responsabilités propres et non pour une autre paroisse ou un autre groupe de sœurs de la société de secours. Si nous travaillons guidés par cette compréhension, nous rechercherons la révélation et nous agirons en collaboration avec l'évêque pour atteindre les objectifs de la société de secours dans notre propre paroisse. Avec cette manière d'agir, si les sœurs et les familles ont besoin de se préparer à des états d'urgence, la société de secours peut organiser, enseigner et inspirer cette préparation. Si les sœurs et les familles ont besoin de se préparer à aller au temple, la société de secours peut s'organiser, enseigner et inspirer les sœurs à le faire. Si un évêque a besoin que les jeunes sœurs célibataires fassent connaître l'Évangile et aident leurs amis à redevenir pratiquants, la société de secours peut organiser, enseigner et inspirer cette œuvre. Si de jeunes mères ont besoin d'apprendre comment élever leurs enfants et prendre soin d'eux, la société de secours peut organiser, enseigner et inspirer cette œuvre. Si des sœurs ont besoin d'apprendre ou d'améliorer des compétences ménagères qui permettront à leur foyer d'être un centre de force spirituelle, la société de secours peut organiser, enseigner et inspirer cette œuvre. Si les dirigeants de la prêtrise ont besoin d'accomplir quelque chose d'important, ils peuvent demander à la société de secours de les aider. En utilisant comme il faut les réunions de la société de secours, elle sera plus capable de réaliser de grandes choses avec les dirigeants de la prêtrise dans chaque paroisse. Comme l'a dit Joseph Smith dans les Doctrines Alliance, que nul ne les considère comme de petites choses, car beaucoup de choses qui ont trait au sein et qui sont encore dans l'avenir en dépendent. Vous savez, sœurs, que pendant une tempête, un très grand bateau tire très avantageusement parti du très petit gouvernail qui le maintient face au vent et aux vagues. À vous qui êtes dirigeante de la société de secours, ce message servira de règle officielle, actuelle, concernant les réunions supplémentaires de la société de secours. Si, après avoir étudié ce message, vous avez des questions sur ce que nous avons enseigné ici, veuillez tenir conseil dans votre paroisse et votre pieu pour découvrir les solutions dont vous aurez besoin. La plus grande part de ce que la société de secours accomplit d'essentiel ne se produit pas lors des réunions. Parlons maintenant des visites d'enseignement. Parce que nous suivons l'exemple et les enseignements de Jésus-Christ, nous accordons de la valeur à cet appel officiel à aimer, connaître, servir, comprendre, enseigner et secourir en son nom. Dans l'Église, c'est vraiment un devoir pour lequel nous pouvons être sûrs d'avoir l'aide du Seigneur si nous la lui demandons. Grâce à cet appel, nous ne manquerons pas d'augmenter notre foi et notre justice personnelle et de fortifier notre foyer et notre famille en devenant de véritables associés du Seigneur. En dehors de sa famille, une sœur de l'Église n'a aucune autre responsabilité qui ait le potentiel de faire autant de bien que les visites d'enseignement. Puisque c'est le programme du Seigneur destiné à veiller individuellement sur ses filles, les règles qui encadrent les visites d'enseignement sont approuvées par la première présidence et sont définies dans le manuel d'instruction de l'Église. Parce que les visites d'enseignement se concentrent sur les sœurs individuellement, les dirigeantes de la société de secours n'organisent pas les femmes en groupe pour ces visites. Il est impossible à l'évêque, qui est le berger ordonné de la paroisse, de veiller sur toutes les brebis du Seigneur en même temps. Il a besoin de l'aide d'instructrices visiteuses inspirées. Nous savons que nous devons toutes choisir d'être l'amie de tous les membres de notre paroisse, mais l'évêque et la présidente de société de secours ont la responsabilité de recevoir la révélation concernant les personnes qui doivent être chargées de veiller sur chaque sœur. Dans l'idéal, chaque sœur doit veiller sur au moins une sœur de sa paroisse. C'est une bénédiction pour nous d'avoir l'appel de prier pour une autre sœur matin et soir et de recevoir l'inspiration sur la façon dont le Seigneur voudrait que nous prenions soin de l'une de ses filles. Les visites d'enseignement deviennent une œuvre basée sur la foi lorsque nous nous concentrons sur les personnes et non sur les pourcentages. En réalité, les visites d'enseignement ne sont jamais finies. Il s'agit plus d'une façon de vivre que d'une tâche. Notre service fidèle d'instructrice visiteuse est une preuve que nous sommes disciples du Christ. Nous montrons notre foi et nous suivons un modèle établi par le Seigneur lorsque chaque mois nous faisons rapport de ce qui nous a été confié. Si notre principale tâche était de faire rapport que chaque sœur de la paroisse a entendu le message des instructrices visiteuses imprimé chaque mois dans le Liaona, il serait beaucoup plus efficace de le lire à voix haute pour tout le monde lors de la réunion de Sansen. Nos rapports sont très utiles à l'évêque et à la présidente de la société de secours lorsque nous les informons du bien-être spirituel et temporel de nos sœurs et de la façon dont nous les avons servies et aimées. Comme je suis reconnaissante envers toutes mes instructrices visiteuses qui, année après année, ont montré leur foi en me servant, en m'instruisant, en me fortifiant et en m'aimant de façon inspirée. Notre service compatissant et notre aide pour répondre aux besoins temporels des personnes et des familles découlent des visites d'enseignement. C'est grâce aux instructrices visiteuses et à ses propres visites qu'une présidente de la société de secours découvre les besoins des membres de sa paroisse. Parfois, elle nous mobilise pour que nous aidions les autres ensemble. Parfois, nous servons conformément à notre nature, en suivant les murmures du Saint-Esprit. Camilla Kimball, la femme de Spencer W. Kimball, m'a appris à ne jamais réprimer une pensée généreuse. En suivant son conseil, nous pouvons savoir avec certitude que notre Père Céleste nous connaît personnellement, car il nous envoie être ses mains et son cœur pour les personnes dans le besoin. Ce faisant, notre foi en lui grandit. Sœurs, nous vivons à une période heureuse et passionnante de croissance de l'histoire de l'Église et notre société de secours contribue à écrire cette histoire. Joseph Smith a dit que chaque homme, chaque femme et chaque enfant se rendent compte de l'importance de l'œuvre et agissent comme si le succès dépendait uniquement de ses efforts personnels. Que tous s'y intéressent et se rendent alors compte qu'ils vivent à une époque dont la perspective a rempli de joie, il y a des milliers d'années, le sein des rois, des prophètes et des hommes justes leur a inspiré les notes les plus douces, les poèmes les plus exaltés et les a amenés à éclater en ces chants d'allégresse que l'on trouve dans les Écritures. Je me réjouis de savoir que le Seigneur nous aime assez pour nous guider dans cette œuvre par l'intermédiaire de prophètes, voyants et révélateurs, et que nous appartenons à une Église qui fonctionne avec la révélation continue. Je suis persuadée que si toutes les sœurs font leur part pour accomplir les objectifs de la société de secours, les anges nous accompagneront et nous participerons à des miracles stupéfiants. Nous célébrons l'œuvre essentielle, basée sur la foi, qui nous a été confiée et nous en sommes reconnaissantes. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Quelle joie d'être assemblés dans le monde entier, nous sœurs de Sion. Je suis reconnaissante de cette occasion de vous témoigner du Sauveur et d'exprimer l'amour que j'ai pour vous. Je vais parler aujourd'hui de la raison pour laquelle chaque femme a besoin de la société de secours. Peu après avoir organisé et établi l'Église, Joseph Smith, le prophète, a aussi organisé la société de secours des femmes. Il a dit, « L'Église n'a jamais été organisée parfaitement avant que les femmes soient ainsi organisées. » La société de secours constitue une partie essentielle de l'Église. Et nous, sa présidence, nous espérons pouvoir vous aider à comprendre pourquoi elle est essentielle dans votre vie. Le désir le plus profond de notre présidence est d'aider chaque femme de l'Église à se préparer à recevoir les bénédictions du Temple, à honorer les alliances qu'elle contracte et à être engagée dans la cause de Sion. La société de secours inspire les femmes et les instruit pour les aider à accroître leur foi et leur justice personnelle, à fortifier leur famille et à rechercher et à aider les nécessiteux. À propos de notre époque, Spencer W. Kimball a dit « La majeure partie de la forte progression qui aura lieu dans l'Église dans les derniers jours se produira parce que beaucoup de femmes justes du monde se joindront à l'Église. Cela arrivera dans la mesure où la justice et l'éloquence des femmes de l'Église se reflèteront dans leur vie et où l'on verra qu'elles sont différentes des femmes de l'extérieur et que cela les rend plus heureuses. » Parmi les vraies héroïnes du monde qui viendront dans l'Église se trouvent les femmes qui se soucient plus d'être justes que d'être égoïstes. Ces vraies héroïnes ont une véritable humilité qui donne plus de valeur à l'intégrité qu'à la célébrité. Il arrivera que les exemples de femmes de l'Église seront une force importante tant pour l'accroissement numérique que pour l'accroissement spirituel de l'Église dans les derniers jours. Je crois que ces prophéties sont en cours d'accomplissement. Dans toutes les nations du monde, un grand nombre de femmes de qualité adoptent l'Évangile de Jésus-Christ. Vous êtes les véritables héroïnes dont le président Kimball a parlé. Nous vous rencontrons par milliers dans nos voyages de par le monde. Nous voyons vos bonnes œuvres, nous entendons votre témoignage sincère et nous ressentons votre esprit. Nous voyons votre visage refléter la lumière de l'Évangile. Votre bon exemple et votre bonne influence sont extraordinaires et admirables. Mais nous savons aussi que de nombreuses femmes de l'Église n'ont pas pleinement les bénédictions d'être pratiquantes dans l'Église et dans la société de secours. Nous lançons un appel à celles d'entre vous qui assistent déjà aux réunions de la société de secours. Nous vous demandons d'aller voir les femmes de vos paroisses et branches qui ne participent pas à la société de secours pour leur apprendre avec amour ce qu'elle fera pour elles. Témoignez-leur qu'elle enrichira leur foyer et leur vie personnelle. Proposez-leur d'être leur amie et leur sœur. Veillez sur elles et fortifiez-les. Aidez-nous à faire reculer la tendance à la désintégration de la famille que l'on observe dans la société. Aidez vos sœurs à se tourner vers le Seigneur et vers son plan du bonheur destiné à ses enfants. Elles trouveront une orientation, du réconfort, de la paix et de l'inspiration. Elles sauront que notre Père Céleste les aime et leur porte un intérêt immense. Que fait la société de secours pour les femmes qui acceptent le don d'être pratiquantes dans cette organisation? Quelle bénédiction apporte-t-elle à la famille et au foyer? Ma mère venait de se convertir à l'Église quand elle a été appelée présidente de la société de secours dans notre petite branche de San Salvador. Elle a dit au président de branche qu'elle manquait d'expérience, de préparation et qu'elle ne se sentait pas à la hauteur. Elle avait la trentaine. avait fait très peu d'études et avait consacré sa vie entière à s'occuper de son mari et de leurs 7 enfants. Mais le président de branche l'a quand même appelée. J'ai vu ma mère se mettre à la hauteur de la situation. Pendant qu'elle servait, Elle a acquis des compétences de dirigeante et de nouveaux talents, tels que l'art d'enseigner, de parler en public et de planifier et d'organiser des réunions, des activités et des projets de service. Elle a eu de l'influence sur les sœurs de la branche. Elle les a servies et leur a appris à se servir mutuellement. Les sœurs l'aimaient et la respectaient. Elle a aidé d'autres femmes à découvrir, à utiliser et à accroître leurs dons et leurs talents. Elle les a aidées à devenir des femmes qui édifient le royaume et des familles spirituellement fortes. Elle est restée fidèle aux alliances du temple qu'elle a contractées. Lors de son décès, elle était en paix avec son Créateur. Des années plus tard, une sœur qui a servi avec elle en tant que conseillère dans la présidente de la Société de Secours m'a écrit la lettre suivante. C'est votre mère qui m'a appris comment devenir ce que je suis. Elle m'a appris la charité, la bonté, l'honnêteté et la responsabilité dans nos appels. Elle a été mon guide et mon exemple. J'ai maintenant 80 ans, mais je suis restée fidèle au Seigneur et à son évangile. J'ai fait une mission et le Seigneur m'a grandement bénie. J'ai vu le même miracle s'opérer dans la vie de beaucoup de femmes de différentes parties du monde. Les sœurs embrassent l'Évangile et la Société de Secours les aide à fortifier leur foi et à progresser spirituellement en leur donnant la possibilité de diriger et d'enseigner. Leur service ajoute une nouvelle dimension à leur vie. Tandis qu'elles progressent spirituellement, elles prennent davantage conscience de leur appartenance à un groupe, de leur identité et de leurs valeurs personnelles. Elles comprennent que tout le but du plan de l'Évangile est de nous donner la possibilité d'atteindre notre plein potentiel. Avec les efforts des sœurs de la Société de Secours, nous édifions le royaume et nous fortifions les foyers de Sion. Aucune autre organisation de l'Église ne peut rendre le même service que la Société de Secours. Des milliers de familles bénéficient du service rendu par des instructrices visiteuses pleines d'amour qui, tendant une main réconfortante, sont à l'écoute et ont des paroles encourageantes. Sur la bénédiction que la Société de Secours a été dans sa vie, Norma, ma fille, a dit « Quand Darren et moi venions de nous marier et attendions notre premier enfant, nous habitions dans une petite ville universitaire. Nous faisions tous les deux des études à plein temps et nous avions de très petits revenus. La paroisse la plus proche était à une cinquantaine de kilomètres et notre seul moyen de locomotion était une vieille voiture qui ne fonctionnait pas la plupart du temps. Quand les sœurs de la paroisse se sont aperçues de notre situation, elles se sont immédiatement mobilisées pour que l'une d'elles nous prenne toujours en voiture pour aller à l'église et en revenir le dimanche et pour d'autres activités. Certaines de ses sœurs habitaient d'autres villes et faisaient d'une trentaine à une cinquantaine de kilomètres pour nous prendre. En plus, de nombreuses sœurs nous invitaient chez elles pour d'agréables dîners en famille après l'église. Aucune d'elles ne nous faisait sentir que nous étions un fardeau pour elles. Je n'oublierai jamais l'amour sincère et la charité que les sœurs de la Société de Secours nous ont montré pendant cette époque courte mais difficile de notre vie. Mon mari est évêque et il dit qu'il ne pourrait jamais faire son travail sans l'aide de la présidente de la Société de Secours. Les présidentes de la Société de Secours du monde entier travaillent en collaboration avec leur évêque ou leur président de branche pour organiser les sœurs dans leur tâche sacrée de rechercher et d'aider les nécessiteux. Ces présidentes dévouées ont besoin que vous les souteniez et que vous les aidiez de bon gré. Votre présence aux réunions de la Société de Secours sera une bénédiction pour vous, mais votre participation à l'œuvre de la Société de Secours sera une bénédiction pour l'Église entière. Que vous soyez jeune ou âgé, seul ou marié, veuve ou viviez en famille, nous voulons que l'influence et le pouvoir de la Société de Secours soient une bénédiction pour vous et pour votre foyer. Il y a un grand besoin de rallier les sœurs de l'Église pour faire avancer l'œuvre. Nous vous invitons à servir en exerçant votre grande influence bénéfique pour fortifier nos familles, notre Église et nos collectivités. Vous êtes une force très nécessaire qui agit pour l'amour, la vérité et la justice dans ce monde. Nous avons besoin de vous pour édifier familles, amis et voisins. C'est par votre intermédiaire que l'amour parfait de Dieu pour chacun de ses enfants est manifesté. Notre présidence reçoit souvent des lettres de sœurs à qui la Société de Secours a fait beaucoup de bien. Beaucoup d'entre elles énumèrent ce que la Société de Secours a fait pour elles et pour leurs familles. Cette liste pourrait inclure. La Société de Secours me redonne l'assurance que notre Père Céleste m'aime parce que je suis sa fille. Je me rappelle qu'il m'a accordé des dons et des talents. J'apprends que les alliances du Temple sont essentielles pour moi et pour ma famille. J'apprends à trouver de la joie dans mon rôle de mère. Les leçons et les activités de la Société de Secours me donnent les compétences nécessaires pour être une bonne mère. Je suis consciente que je suis responsable d'avoir une bonne influence sur la génération montante. La Société de Secours m'aide à être une meilleure épouse et à honorer et à respecter mon mari. J'y suis encouragée à chercher, à apprendre et à progresser personnellement. J'apprends et j'applique des principes de base d'autonomie dans les réunions et les activités. Je connais la joie de servir grâce aux visites d'enseignement et aux services compatissants. Je me découvre des dons que je ne connaissais pas. La Société de Secours me donne des occasions d'utiliser mes talents. J'apprends que je peux encourager les autres. J'apprends que nous avons toutes quelque chose à partager. Amour, gentillesse, sourire, compassion, etc. J'apprends à m'intéresser sincèrement aux autres. J'apprends à être une meilleure voisine et à traiter les autres avec bienveillance. J'apprends à être ingénieuse et déterminée. Je sais que j'aurai toutes les bénédictions de mon Père Céleste si je reste fidèle et loyale à mes alliances. La liste est loin d'être terminée. Je suis sûre que la plupart d'entre vous aimeraient ajouter quelque chose. La Société de Secours est essentielle au bien-être de chaque foyer et de chaque famille. Chaque mari et chaque père doit encourager la participation à la Société de Secours. Chaque femme doit y aller et apprendre les possibilités qu'elle offre. Chaque femme juste a un rôle important à jouer dans le plan de Dieu et dans l'édification de son royaume. La Société de Secours a besoin de vous et vous avez besoin d'elle. Je vous témoigne que la Société de Secours a été organisée par Dieu pour aider la prêtrise dans l'œuvre du salut. Je sais que notre Père Céleste vit. Il nous connaît et nous aime, vous et moi. Jésus est le Christ, notre Sauveur et notre Rédempteur. Au nom de Jésus-Christ, Amen.
Il y a quelques années, j'ai rendu visite à de chers amis à Londres. À cette occasion, j'ai pris le métro souterrain que les gens utilisent pour se déplacer. Dans chacune des stations pleines de monde, des panneaux avertisseurs de danger, des dangers que les gens peuvent rencontrer. Des lumières clignotent pour signaler aux gens l'arrivée d'un train et ils doivent se reculer du bord du quai. Un panneau rappelle aussi aux gens que l'intervalle entre le train et le quai de la station est dangereux. Le panneau dit « Attention à l'intervalle ». Cela rappelle aux gens de ne pas se laisser prendre le pied dans ce trou et de ne rien y laisser tomber, parce qu'il ira sous le train et sera perdu. Ce panneau est nécessaire et avertit les gens d'un danger très réel. Pour ne pas courir de danger, les gens doivent faire attention à l'intervalle. Beaucoup d'entre nous ont des intervalles dans leur vie. C'est parfois la différence entre ce que nous savons et ce que nous faisons réellement, ou entre nos buts et ce que nous accomplissons réellement. Ces intervalles peuvent nous rappeler comment nous pouvons nous améliorer, ou, si nous les ignorons, être pour nous des pierres d'achoppement. Je veux parler de quelques intervalles que je vois dans ma vie ou dans la vie d'autres personnes. Voici ceux que je traiterai ce soir. Le premier est celui qui existe entre le fait de croire que l'on est fille de Dieu et celui de savoir dans son cœur et dans son âme qu'on est une fille précieuse et bien-aimée de Dieu. Le second se trouve entre l'accomplissement du programme des jeunes filles et la transformation en un membre qui participe pleinement à la Société de secours, qui est l'organisation du Seigneur pour les femmes. Le troisième est celui qui peut exister entre le fait de croire en Jésus-Christ et le fait d'être vaillant dans le témoignage de Jésus-Christ. Premièrement, l'intervalle entre croire et savoir qu'on est une fille bien-aimée de Dieu. La plupart d'entre nous qui sommes dans l'Église depuis un certain temps ont chanté « Je suis enfant de Dieu ». Je chante ce chant depuis ma tendre enfance et j'ai toujours cru ce qu'il dit. Même si la plupart d'entre nous croient que c'est vrai, il semble qu'à certains moments d'épreuve ou de difficulté, nous ayons tendance à en douter ou à l'oublier. Certains disent par exemple « Si Dieu m'aimait vraiment, il ne permettrait pas que mon enfant ait cette maladie ». Si Dieu m'aimait vraiment, il me trouverait un mari digne pour que je puisse me marier et être scellée dans le temple sacré. Si Dieu m'aimait, nous aurions assez d'argent pour acheter une maison pour notre famille. Ou, j'ai péché, alors il est impossible que Dieu puisse encore m'aimer. Malheureusement, nous entendons bien trop souvent ce genre de déclaration. Vous devez savoir que rien ne peut vous séparer de l'amour de Christ. Les Écritures nous disent clairement qu'aucune tribulation, aucune angoisse, aucune persécution, aucune domination ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Notre Père Céleste nous aime tant qu'il a envoyé son Fils unique pour expier nos péchés. Non seulement le Sauveur a souffert pour chaque péché, mais il a ressenti chaque douleur, chagrin, malaise, sentiment de solitude ou de tristesse que chacun de nous a connu un jour. N'est-ce pas là un grand amour? Le Saint-Esprit témoigne que l'Esprit de... C'est le Saint-Esprit qui témoigne de l'amour de Dieu pour ses enfants. Nous devons accepter son amour, nous aimer nous-mêmes, aimer notre prochain. Rappelez que toute âme ici-bas est aussi un enfant de Dieu. Nous devons nous traiter mutuellement avec amour et bonté, comme cela convient à un enfant de Dieu. La plupart d'entre nous font très, très grands efforts pour accomplir leurs devoirs, pour respecter les commandements et obéir au Seigneur. Il est nécessaire que vous sachiez reconnaître l'approbation du Seigneur, que vous sachiez que le Seigneur est satisfait et accepté votre offrande. Rappelez-vous de faire attention à cet intervalle et de ne pas laisser le doute et l'incertitude pénétrer en vous. Soyez certaine que Dieu vous aime tendrement et que vous êtes son enfant bien-aimé. Voyons à présent l'intervalle entre l'accomplissement du programme des jeunes filles et la transformation en une sœur qui participe pleinement à la Société de secours, l'organisation du Seigneur pour les femmes. Dans de nombreux pays, une jeune fille devient femme à 18 ans. Pour beaucoup, c'est une période passionnante où l'on se sent adulte et prête à affronter le monde et le vaincre. Pour les jeunes filles de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, c'est aussi le moment où elles accomplissent beaucoup de leurs objectifs du progrès personnel, entrent à la Société de secours et acceptent des appels de service dans l'Église. Notre témoignage a été fortifié dans le programme des jeunes filles et nous nous sommes fixés un ensemble d'objectifs qui nous mèneront à nous marier au Temple et à fonder une famille éternelle. Malheureusement, certaines de nos jeunes sœurs s'autorisent à ne pas participer pleinement à l'Évangile et à la Société de secours. Certaines ont l'attitude de penser « Je me remettrai à la Société de secours quand je me marierai, ou quand je serai plus âgée, ou quand je serai moins occupée ». À la fin de mes études secondaires, j'envisageais d'aller au moins un an ou deux à l'université, de me marier avec un beau garçon et d'avoir quatre enfants parfaits et beaux, deux garçons et deux filles. Mon mari gagnerait bien sa vie et je ne devrais donc pas travailler à l'extérieur. Et j'envisageais donc de rendre service dans l'Église et dans la collectivité. Heureusement, l'un de mes buts était d'être pratiquante et fidèle dans l'Église. Vous savez peut-être que beaucoup de mes objectifs ne se sont pas réalisés de la manière que j'espérais. J'ai terminé mes études, j'ai fait une mission, j'ai eu un emploi, j'ai poursuivi des études pour passer une maîtrise et j'ai continué à travailler pendant de nombreuses années. Il y a 13 ans, j'ai cru que le mariage allait arriver immanquablement car j'avais ouvert un biscuit qui disait la bonne aventure. Vous vous marierez dans moins d'un an.
mais pas de beau garçon, pas de mariage et pas d'enfant. Rien n'est arrivé comme je l'avais prévu, sauf une chose. J'ai essayé d'être pratiquante et fidèle dans l'Église. J'en suis très reconnaissante. Cela a fait toute la différence dans ma vie. J'ai eu l'occasion de servir de nombreuses années aux jeunes filles, et je sentis que cela me permettait d'enseigner et de rendre témoignage à des jeunes filles qui fortifiaient leur témoignage et qui cherchaient à progresser dans la voie fixée par Dieu. J'ai aussi eu la possibilité de servir à la Société de secours, ce qui m'a aidé à apprendre à servir les autres et à accroître ma foi, et m'a donné un magnifique sentiment de faire partie d'un groupe. Bien que n'étant pas mariée et n'ayant pas eu d'enfant, j'ai eu le sentiment que ma vie avait un sens. Mais j'ai eu quelques moments de découragement où je remettais le plan en question. Une collègue de travail qui n'était pas membre de l'Église m'a dit un jour, « Pourquoi continues-tu à fréquenter une Église qui met tant l'accent sur le mariage et la famille ?» J'ai répondu simplement, « Parce qu'elle est vraie. » Je peux être autant célibataire et autant sans enfant en dehors de l'Église. Mais avec l'Église et l'Évangile de Jésus-Christ dans ma vie, j'ai trouvé le bonheur et j'ai compris que j'étais sur le chemin que le Sauveur voulait que je suive. J'ai trouvé la joie et j'ai eu de nombreuses occasions de servir, d'aimer et de progresser. Rappelez-vous, ce n'est pas seulement ce que vous tirez de votre participation active à la Société de secours qui compte, mais aussi ce que vous pouvez donner et apporter. Mes chères sœurs, et surtout vous, les jeunes adultes, je vous témoigne que Dieu vous aime. Il ne vous oublie pas. Il a un plan pour vous. Il a besoin que vous serviez ses enfants. Il a besoin que vous soyez des femmes pratiquantes et fidèles dans l'Église. Il a besoin que vous aidiez le faible en lui tendant la main. Elisa Snow, deuxième présidente générale de la Société de secours, s'est adressée à un grand groupe de sœurs, adolescentes et jeunes adultes, réunies à Ogden en 1873. Elle a donné le conseil suivant, qui était opportun à l'époque et l'est encore aujourd'hui. Elle a dit aux jeunes filles, « Si vous vous associez, voulant dire femmes âgées et les jeunes, votre esprit s'en trouve amélioré, vous acquérez de l'intelligence et vous vous protégez de l'ignorance. L'Esprit de Dieu vous communiquera des instructions et vous vous les transmettrez. Je vous dis, Dieu vous bénit, mes jeunes sœurs. Rappelez-vous que vous êtes des saintes de Dieu et que vous avez des œuvres importantes à accomplir en Sion. » Elle a ensuite donné les conseils suivants à toutes les femmes. L'apôtre Paul a parlé jadis des saintes femmes. Chacune d'entre nous a pour devoir d'être une sainte femme. Nous aurons des buts élevés si nous sommes des saintes femmes. Nous nous sentirons appelées à accomplir des devoirs importants. Personne n'en est exempte. Aucune sœur n'est isolée, ne se trouve dans une sphère si étroite qu'elle ne peut pas faire beaucoup en vue de l'établissement du royaume de Dieu. Veuillez faire attention à cet intervalle et ne laissez en aucune manière celui d'être non pratiquante s'immiscer dans votre Église. Vous avez besoin de l'Église et l'Église a besoin de vous. Et finalement, l'intervalle entre croire au Seigneur Jésus-Christ et être vaillant dans le témoignage de Jésus-Christ. Beaucoup de gens croient en Jésus-Christ, croient qu'il est né de Marie dans des circonstances modestes à Bethléem il y a bien des années. La plupart croient qu'en grandissant, il est devenu un grand pédagogue et une âme noble. Certains croient qu'il nous a donné un ensemble de principes et de commandements de valeur, et que si nous suivons ses enseignements et respectons ses commandements, nous serons bénis. Cependant, nous, saints des derniers jours, savons que nous devons faire plus que croire au Christ. Nous devons avoir foi en lui, nous repentir de nos péchés, être baptisés, et recevoir le don du Saint-Esprit. Puis, nous devons persévérer jusqu'à la fin. Nous devons rendre témoignage aux autres. Nous devons fidèlement respecter les alliances que nous avons faites avec Dieu. Nous savons que toutes choses seront révélées et données aux personnes qui auront persévéré vaillamment pour l'Évangile de Jésus-Christ. Quand nous sommes convertis, nous avons naturellement tendance à parler de l'Évangile à nos êtres chers. Léhi était converti et désirait que sa famille ait part à la bonté de l'Évangile. Néphi parlait du Christ, se réjouissait dans le Christ, prêchait le Christ à ses enfants, afin qu'ils connaissent la source de la rémission de leurs péchés, ou, en d'autres termes, l'endroit où ils trouveraient la paix et la joie. Quand Enos a été converti et a reçu la rémission de ses péchés, il s'est soucié du bien-être de ses frères. Il voulait qu'ils reçoivent les bénédictions que lui-même avait reçues. Dans toutes les Écritures, nous lisons l'histoire d'hommes et de femmes qui ont été convertis et ont souhaité ensuite affermir leurs frères et sœurs. Que votre voix soit entendue parmi les fidèles, quand vous déclarez fidèlement que le Seigneur vit, que son Église a été rétablie et que le plan du bonheur est disponible pour tous. Si nous faisons attention à ces intervalles, en veillant attentivement et en nous éloignant du danger, nous commencerons à prendre conscience de la plénitude des bénédictions de l'Évangile de Jésus-Christ dans notre vie. Mes chères sœurs, je vous aime. Je sais que le Seigneur vit. Je sais qu'il aime chacun d'entre nous. Je sais que cette Église est sa véritable Église. Et j'en témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen.
Sisters,
sœurs, nous sommes conscientes que votre temps est précieux et nous vous sommes très reconnaissantes de votre présence ce soir. Nous remercions les sœurs et les dirigeantes de la Société de secours qui consacrent leur vie et leur foi à cette grande œuvre. Nous remercions le chœur de sa participation et nous rendons hommage aux nombreuses personnes qui ont permis la réussite de cette réunion. À présent, nous aurons l'honneur d'écouter Henry Biering, premier conseiller dans la première présidence. Après le discours du président Eyring, le chœur chantera notre cantique de clôture, vers Sion. Sœur Carol M. Stephens, du bureau général de la Société de secours, fera ensuite la prière de clôture. Président Eyring.
Je suis reconnaissant d'être avec vous ce soir. Je vous exprime l'amour et la gratitude du président Monson et du président Ohrdorf. Depuis sa fondation en 1842, la Société de secours a eu la bénédiction d'être supervisée avec attention et amour par le prophète de Dieu. Au début, à Nauvoo, Joseph Smith a instruit les dirigeantes et les membres assemblés. Sachant que vous avez cette histoire magnifique, j'ai ressenti toute la charge de l'invitation que le président Monson m'a lancée de vous adresser la parole. Lors de l'une des premières réunions de la Société de secours, Joseph Smith, le prophète, a demandé à l'évêque Whitney de prendre la parole à sa place. Celui-ci a commencé par dire qu'il était arrivé heureux à la perspective d'être instruit par le prophète. Je comprends la déception qu'il a eue, et peut-être la vôtre. Pendant que je me préparais à cette heure, j'ai donc demandé au président Monson ce qu'il jugeait le plus utile que vous entendiez. Sa réponse a confirmé l'impression que j'avais déjà eue par l'étude et la prière. Je vous parlerai donc ce soir du grand patrimoine que vous ont transmis les sœurs qui vous ont précédé à la Société de secours. La part des bases que les premières sœurs ont posées pour vous, qui me semble très importante et très durable, est que la charité est au cœur de la Société de secours et devait entrer dans le cœur de chaque membre pour en faire partie intégrante. Pour elle, la charité signifiait bien plus que de la simple bienveillance. La charité naît de la foi au Seigneur Jésus-Christ et est un effet de son expiation qui opère dans le cœur des membres. Il y a beaucoup de groupes de femmes bienveillantes qui font beaucoup de bien. Il y en a beaucoup qui ont pour les déshérités, les malades, les nécessiteux, une compassion irrépressible. Mais cette organisation est unique, elle l'est depuis ses débuts. Dans les bases qu'elles ont posées, ces sœurs ont mis « la charité ne périt jamais » au centre. Cela les a aidées au début. Cela les a aidées tout le temps qui a suivi. Cela les aide maintenant à notre époque. Et cela aidera la Société de secours dans les temps à venir. Elle est faite de femmes dont les sentiments de charité viennent du changement de cœur que produit le fait qu'elles se sont qualifiées pour contracter les alliances offertes uniquement par la véritable Église du Christ et leur fidélité à ces alliances. Ces sentiments de charité viennent de lui par son expiation. Dans leurs actes charitables, elles sont guidées par son exemple. Ils naissent de leur reconnaissance pour son don infini de la miséricorde et ils viennent par le Saint-Esprit qu'il envoie pour accompagner ses servantes de leur mission miséricordieuse. Grâce à cela, elles ont accompli et peuvent accomplir des choses extraordinaires pour les autres et trouver de la joie même quand elles ont de grands besoins insatisfaits. L'histoire de la Société de secours est pleine de récits de ce genre, de remarquables services désintéressés. À l'époque terrible de la persécution et des privations, où les fidèles sont allés d'Ohio au Missouri, du Missouri en Illinois, puis ont traversé le désert pour se rendre dans l'Ouest, malgré leur pauvreté et leur chagrin, les sœurs se sont occupées des autres. Vous pleureriez comme moi si je vous lisais maintenant certains récits de votre histoire. Vous seriez touchés par leur générosité, mais plus encore, de voir la foi qui les encourageait et les soutenait. Elles venaient de conditions très diverses. Elles ont toutes connu les épreuves et les chagrins de la vie. Leur détermination, fruit de leur foi à servir le Seigneur et les autres, semblait ne pas leur éviter les tempêtes de la vie terrestre, mais les plonger dedans. Certaines étaient jeunes, d'autres âgées. Elles venaient de nombreux pays et de nombreux peuples comme vous aujourd'hui. Mais elles avaient le même cœur, le même esprit et la même intention. Elles étaient déterminées à aider le Seigneur à édifier sa Sion, là où il pouvait y avoir la vie heureuse que le Livre de Mormon leur décrivait de manière si vive. Vous vous rappelez certaines scènes du quatrième livre de Néphi qu'elles portaient dans leur cœur, partout où le Seigneur les conduisait dans leur voyage en Sion. Je cite, « Il arriva que la 36e année, le peuple fut entièrement converti au Seigneur, sur toute la surface du pays, tant les Néphites que les Lamanites. Il n'y avait pas de querelles ni de controverses parmi eux. Et tous les hommes pratiquaient la justice les uns envers les autres. Ils avaient tout en commun. C'est pourquoi il n'y avait ni riches ni pauvres, ni esclaves ni hommes libres. Mais ils étaient tous affranchis et participants du don céleste. Il arriva qu'il n'y eut pas de querelles dans le pays, à cause de l'amour de Dieu qui demeurait dans le cœur du peuple. Les membres de la Société de secours du début n'ont pas connu une époque aussi idyllique, mais l'amour de Dieu demeurait dans leur cœur. Voilà ce que la Société et ses sœurs ont enduré pendant leur voyage vers l'Ouest et dans les années qui ont suivi. À cause de conditions difficiles pendant plus de 40 ans, la Société de secours a cessé de fonctionner en tant qu'organisation générale de l'Église. Mais en 1866, Brigham Young appelait Eliza R. Snow à aider les évêques à organiser des sociétés de secours. Elle a été appelée comme deuxième conseillère dans la présidence générale de la Société de secours en 1880. Les registres de l'organisation montrent que, quand les dirigeants abordaient les sœurs de toute l'Église pour relancer la Société de secours, ils se sont aperçus que la charité n'avait pas diminué dans leur cœur. Elles avaient continué à tendre une main miséricordieuse aux nécessiteux. Pour celles qui étaient restées fidèles à leurs alliances, le don de la charité, l'amour pur de Christ, avait continué. Elles l'avaient encore. Pendant les années suivantes, la Société de secours a accru ses effectifs et développé ses forces pour servir les nécessiteux. Sous la direction de femmes dotées d'une grande vision et de grandes capacités, la Société de secours a pris la direction pour commencer à rendre des services charitables pour les nécessiteux, services qui n'existaient pas dans les régions de la frontière. Elles ont créé un petit hôpital. Elles ont soutenu des femmes pour qu'elles aillent dans l'Est recevoir une formation médicale pour travailler dans cet hôpital. Cela a été le début de l'un des plus grands services hospitaliers des États-Unis. Elles ont lancé des programmes qui, au fil des années, sont devenus ceux des services sociaux de l'Église au niveau mondial. Elles ont créé un réseau de silos à grains si efficace qu'elles ont pu répondre à une demande d'aide du gouvernement fédéral pendant une période de guerre et de crise. Elles ont lancé ce qui est devenu la primaire et ce qui est devenu l'organisation des jeunes filles de l'Église. Elles ont lancé leur propre magazine pour les femmes. Elles sont devenues l'une des plus grandes organisations de femmes au monde. Elles font aussi partie des dirigeantes d'organisations de femmes aux États-Unis. La Société de secours a été au cœur des débuts des efforts de l'Église pour apporter son aide humanitaire dans le monde entier. Quand ils visitent l'Utah, les dirigeants des nations expriment leur émerveillement et leur admiration pour ce que l'Église accomplit en faveur des pauvres et des victimes de guerres et de catastrophes naturelles dans le monde entier. Ces dons remarquables faits aux enfants de Dieu font partie du patrimoine durable de la Société de Secours. Joseph Smith, le prophète, a dit aux sœurs de la Société de Secours lors de ses premières réunions que ces choses remarquables seraient le résultat de leur service fidèle. Il a dit que des reines viendraient apprendre de leur service et y participer. J'ai vu l'accomplissement de cette prophétie et je vois, d'après les annales, qu'une promesse scripturaire faite à ceux qui servent le Seigneur dans son œuvre a aussi été accordée à ces pionnières de la Société de Secours. Cette promesse, faite par Joseph Smith, le prophète, est enregistrée dans la section 88 des Doctrines et Alliances. Elle parle des personnes qui seraient appelées à servir avec le Seigneur pendant des époques successives. Je cite, « Il dit au premier, « Va travailler dans le champ, et je viendrai vers toi la première heure, et tu verras la joie de mon visage. » Il dit au deuxième, « Va aussi dans le champ, et la deuxième heure, je te rendrai visite, et tu verras la joie de mon visage. » Également au troisième en disant, « Je te rendrai visite, et au quatrième, et ainsi de suite, jusqu'au douzième. » Et le Seigneur du champ alla vers le premier, à la première heure, et demeura avec lui pendant toute cette heure. Et il se réjouit de la lumière, du visage de son Seigneur. Il est clair, d'après leurs annales, que ces femmes de la première période de la Société de Secours ont ressenti la joie promise par le Seigneur. Il était dans l'œuvre avec elles. Il l'a fait prospérer. Elles ont ressenti la joie et vu la lumière. Le prophète Joseph a prédit qu'une autre période suivrait. Il a vu les grandes œuvres qu'elles accompliraient dans la première période. Mais cela a dû paraître alors contradictoire. Il a dit qu'elles devaient servir, bénir, s'occuper des personnes qui étaient proches d'elles et qu'elles connaissaient personnellement. Après une période de joie à servir, il a dû être difficile pour les dirigeantes de la Société de Secours d'être conduites par le Seigneur dans une autre époque, loin des champs qu'elles avaient cultivés si magnifiquement. Je sais qu'il a été difficile pour les hommes qui ont hérité du service hospitalier qu'ils avaient élargi sur les bases que la Société de Secours avait établies. Par l'intermédiaire de ses prophètes, le Seigneur a expliqué que ses serviteurs de la prêtrise pouvaient faire confiance à d'autres pour entretenir et édifier ce puissant moyen de faire du bien et se tourner davantage vers des champs où travaillait le Seigneur à sauver les âmes éternelles des enfants de son Père. Et l'Église a donc cédé son excellent système hospitalier. Je connais, j'admire les hommes qui avaient eu la joie de servir dans ce service hospitalier. Et j'ai vu qu'ils reconnaissaient que la joie venait de travailler avec le Seigneur et non de leurs propres accomplissements. Ils ont donc souri et cédé avec joie ce qu'ils avaient construit sans se sentir dépossédés ni rabaissés. Ils avaient foi que le Seigneur voyait que leur service était plus nécessaire ailleurs, dans d'autres champs, à une autre époque. Une partie précieuse de votre patrimoine de la Société de Secours est cette même foi qui habite les dirigeantes et les membres de la Société de Secours. Le Seigneur avait vu où leur grand talent serait nécessaire dans l'époque suivante et un endroit où elles trouveraient encore plus de joie que dans les projets admirables qu'elles avaient entrepris et édifiés. L'Église a grandi et s'est étendue au monde entier. Les services qu'elles avaient créés commençaient à nécessiter des moyens énormes et une supervision constante dans une Église en expansion et un monde de plus en plus troublé. La gestion de vastes programmes centralisés donnait moins l'occasion à chaque dirigeant de la Société de Secours et à chaque membre d'avoir la joie de servir des personnes en particulier pour et avec le Seigneur. Pour une nouvelle époque, le Seigneur avait déjà tout en place. Le seul système qui pouvait apporter secours et réconfort dans une Église aussi grande, dans un monde aussi diversifié, serait rendu par chaque servante à proximité des nécessiteux. Le Seigneur avait vu cela, l'émergence de ce besoin dès le début de la Société de Secours. Il a mis un modèle en place. Deux sœurs acceptent leur tâche de rendre visite à une autre comme un appel du Seigneur. Cela a été vrai dès le début. Les dirigeantes de la société de secours ont organisé des membres qu'elles savaient avoir la foi à rendre des services compartissants quand cela dépassait les capacités de deux instructrices visiteuses désignées. Les membres enseignent l'Évangile dans les réunions locales et rendent témoignage du Sauveur et du rétablissement. Des filles veillent sur des mères écoutaient et instruisaient des filles et veillaient sur elles. Les bergers locaux de la prêtrise ont toujours fait confiance aux membres de la société de secours. Chaque évêque, président de branche, a une présidente de la société de secours sur qui s'appuyer. Elle a des instructrices visiteuses qui connaissent les difficultés et les besoins de chaque sœur. Grâce à elle, elle peut connaître le cœur des personnes et des familles. Elle peut répondre aux besoins et aider l'évêque dans son appel d'édifier les personnes et les familles. Une partie admirable du patrimoine de la société de secours est évidente dans la manière dont la prêtrise fait preuve de respect à son égard et en reçoit d'elle en retour. Je l'ai vu, et vous aussi. Il y a des années, notre évêque m'a dit avec un sourire, « Comment se fait-il que quand je vais voir un nécessiteux de la paroisse, votre femme semble toujours être passée avant moi ?» Chaque évêque et chaque président de branche qui a la moindre expérience s'est senti inspiré par l'exemple des sœurs de la société de secours. Elle nous aide à nous rappeler que pour tous, femmes et hommes, il n'y aura pas de salut sans service compatissant. Vous, femmes d'un certain âge, rappelez-vous que Marion Jeremy a cité le passage d'écriture suivant quand il a dit qu'il était aussi déterminé que les sœurs à rendre fidèlement ce service. Il a cité Mosia, et maintenant, pour les choses que je vous ai dites, c'est-à-dire pour conserver de jour en jour le pardon de vos péchés, afin de marcher innocent devant Dieu, je voudrais que vous vous accordiez de vos biens aux pauvres, chaque homme selon ce qu'il a, comme nourrir les affamés, vêtir les nus, visiter les malades et leur apporter du soulagement, tant spirituellement que temporellement selon leurs besoins. À présent, je souris en y repensant parce qu'il voulait ressentir le pardon de ses péchés grâce au service compatissant. À présent, il est temps de parler de ce que vous devez faire pour transmettre ce patrimoine magnifique et sacré de la société de secours à celles qui vous suivront. Je vais parler de choses petites et simples. Rappelez-vous seulement qu'il se transmet de cœur à cœur. La charité, l'amour pur du Christ, fait partie du grand changement de cœur que le Seigneur promet à ses disciples fidèles. Il n'est donc pas difficile de voir les choses simples que vous pouvez et devez faire pour transmettre le patrimoine. Chaque fois que vous et votre compagne vous vous préparez à aller faire des visites d'enseignement, vous devez vous rappeler ce que sera la réussite. Elle sera plus que de passer la porte. Elle sera plus que de donner un message. Elle sera plus que de demander quelle aide vous pouvez apporter. La réussite ne viendra peut-être qu'après de nombreuses visites. Et peut-être ne verrez-vous pas dans ce monde la preuve de votre réussite. Mais vous pouvez ressentir par l'esprit que vous vous en approchez. Avec une sœur de la société de secours, j'ai parlé d'une visite qu'elle a faite. Elle venait de perdre son mari d'une manière soudaine et tragique. C'était l'évêque qui avait suggéré qu'elle fasse cette visite. Elle avait eu dans les dernières années que des contacts intermittents avec la société de secours. L'instructrice visiteuse s'était préparée en s'arrêtant à un magasin pour acheter des fleurs. C'était une période où les tulipes étaient disposées en de nombreuses couleurs pour être vendues. Elle a choisi une couleur, sa préférée, mais s'est ensuite poussée à en choisir une autre. Elle ne savait pas pourquoi elle avait choisi le jaune, mais c'est ce qu'elle a fait. Quand elle a offert les tulipes jaunes à la porte, la femme souriante a dit, « Venez, voir mon jardin derrière la maison. » Il était plein de tulipes complètement écloses. La femme a dit, « Je me demandais si je devais en couper pour la maison. mais maintenant je peux les laisser et en profiter un peu plus longtemps dans mon jardin, puisque vous m'avez apporté celle-ci. Elles ont bavardé agréablement comme si elles étaient d'anciennes amies. Grâce à cette impression d'apporter des fleurs et de choisir des tulipes jaunes, cette instructrice visiteuse a eu la preuve qu'elle était en mission pour le Seigneur. J'ai pu ressentir la joie dans sa voix lorsqu'elle m'en a parlé. Elle ne savait pas ce que la veuve avait ressenti après la visite, mais si c'était que Dieu l'aimait et qu'il lui avait envoyé un ange, l'instructrice visiteuse l'avait aidée à parcourir la route qui mène au succès aux yeux du Seigneur. Cette visiteuse n'aura peut-être que dans le monde à venir la confirmation de la réussite qu'ont produit ses efforts fidèles. C'est vrai pour deux instructrices visiteuses qui ont sans arrêt apporté de l'amour à une autre veuve qui habitait à proximité, dans une maison de retraite. Après de dures épreuves, elle est décédée il y a que quelques semaines. D'après ce que m'a appris un fils de la veuve, je suis confiant que ces instructrices ont réussi. Elles éprouveront le bonheur décrit par la mère de Joseph Smith, le prophète, aux sœurs, qui l'a décrit lors d'une réunion de la société à laquelle il a assisté. Elle a dit, « Nous devons nous chérir les unes les autres, veiller les unes sur les autres. Nous devons consoler les unes les autres et obtenir de la connaissance afin de tous siéger ensemble dans les cieux. Vous transmettez le patrimoine lorsque vous aidez les autres à recevoir le don de la charité dans leur cœur. Elles pourront alors le transmettre à d'autres. Le patrimoine et l'histoire de la société de secours sont enregistrés sous forme de mots et de chiffres, mais ils se transmettent de cœur à cœur. C'est pourquoi les familles bénéficient tant de la société de secours. Ma mère m'a laissé une petite épinglette portant l'inscription « La charité ne périt jamais ». Sœur Beck m'a donné cette petite épinglette pour mon revers de col. Je l'ai épinglée. Mais je sais que Joseph Smith se souciait de la croissance de la société de secours. Donc, je ne vais pas le mettre moi-même sur mon col maintenant pour contribuer à sa croissance. Mais cette société que le prophète a vue devient une société de femmes et de sœurs converties. Le patrimoine durable que ma mère a laissé à sa famille a été son amour et celui du Seigneur que j'ai vu et ressenti par les choses simples qu'elle accomplissait pour lui en exprimant sa compassion. Elle était une femme de la société de secours. Elle n'a pas eu de fille, mais ma femme a transmis le patrimoine à nos deux filles. Elles le garderont vivant dans le cœur des autres. Il durera parce que la charité ne périt jamais. Je témoigne que la charité est l'amour pur du Christ. Il vit en le servant. Et en servant les autres avec lui, nous ressentons sa joie. Par son expiation, il a permis de supplier pour avoir le don de la charité et de le recevoir. Je sais que notre Père Céleste vit et répond à nos prières. Vous êtes membre d'une société fondée et mise en marche par le prophète du rétablissement, Joseph Smith. Sœur Beck et ses conseillères ont été appelés par inspiration divine donner un prophète vivant. Je sais que c'est vrai. Vous avez un patrimoine magnifique. Je prie Dieu de vous inspirer, de le préserver et de le transmettre afin de bénir les générations et les époques à venir et de leur apporter la joie. Au nom sacré de Jésus-Christ, que nous servons. Amen.
Oh, Our Father in heaven,
notre Père céleste, notre cœur est rempli de gratitude et d'amour à la fin de cette réunion de la Société de secours. Nous te remercions pour le rétablissement de l'Évangile à cette époque, pour la plénitude de l'Évangile et de pouvoir être pleinement participante. Nous te remercions pour le rétablissement de la prêtrise et nous te remercions d'être guidée par un prophète. Nous te remercions beaucoup pour le président Manson. Nous l'aimons et nous le soutenons. Nous te remercions pour ses conseillers. Nous te remercions beaucoup pour tous les dirigeants de la prêtrise qui nous soutiennent dans cette œuvre importante de la Société de secours. Nous te remercions de pouvoir être des partenaires avec eux dans cette grande œuvre pour te servir sur cette terre. Nous te demandons de nous accorder plus de charité. Bénis-nous pour que nous puissions chercher la compréhension et prendre tout cela dans notre cœur. Nous te remercions, notre Père Céleste, pour le patrimoine des sœurs qui sont venues avant nous et de pouvoir avoir la chance d'être ici. Nous te remercions pour toutes tes bénédictions et particulièrement pour le Sauveur. Nous l'aimons. Nous sommes reconnaissants de son sacrifice, de son amour. Nous te remercions de nous aider à être meilleurs grâce à lui et à son sacrifice. Nous te remercions, notre Père, pour ce cœur merveilleux et pour l'esprit qu'il a apporté. Nous te remercions pour leur dévouement et pour leur temps. Nous te remercions pour notre présidence de la Société de secours. Nous les aimons et nous les soutenons. Nous écoutons leurs conseils et nous sommes obéissantes. Nous te demandons d'avoir le cœur ouvert et de pouvoir comprendre leurs recommandations. Que nous puissions tenir conseil pour que nous puissions connaître les besoins de nos sœurs dans le monde entier, pour que nous puissions mieux comprendre notre rôle dans la Société de secours. Nous te demandons de nous donner de la joie. Nous t'aimons. Nous sommes reconnaissants d'être ici. Et nous te faisons cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen.